Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. L'émission d'aujourd'hui pourrait se raccrocher à la mythologie. C'est une émission classée en histoire, paraît-il. Mais enfin, la mythologie va faire un grand bond pour arriver jusqu'à nos jours compliqués. Et ça va s'appeler La cagnotte de Jupiter et compagnie. En sous-titre, on pourrait mettre Le cadeau de Macron au 1% de la nation représentant la haute bourgeoisie française. Montant du cadeau prélevé, bien entendu, sur les prolétaires et les ayants droit aux minima sociaux. Le président a évoqué le 14 octobre 2017, dans une interview au Spiegel, une France soi-disant paralysée par l'envie. Paralysée? Vraiment? Et si elle était au contraire dynamisée, et non par l'envie stérile, mais par le très profond sentiment d'injustice, ce qui est tout à fait différent. En 2017, le candidat Macron fait un serment. S'il est élu, c'en sera fini de l'impôt sur la fortune, l'ISF. Alors, cette réforme de l'ISF, qui était prévue pour 2019, a été votée le 12 octobre 2017, sous la pression des milieux d'affaires, bien entendu. L'ancienne ISF est remplacée par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui exclut les actions et obligations de la masse des capitaux imposables. Les actions et obligations constituant à plus de 90% les grandes fortunes, on voit que Macron a fait là un formidable cadeau aux plus riches. L'assurance vie, première source d'épargne financière avec 1 500 milliards d'euros, n'est donc plus imposée. De la même façon, les biens meubles, comme les bijoux, les voitures de luxe, les chevaux de course ou les lingots d'or, échappent aussi à l'impôt sur la fortune. Et puis, vous savez, Symphonie, le yacht de Bernard Arnault, long de 101 mètres 50, avec ses équipements pharaoniques, dont un héliport et une piscine à fond de verre. Ce yacht est estimé à près de 130 millions d'euros. Sous le régime de l'ISF, il aurait fait rentrer environ 2 millions d'euros par an dans les caisses de l'État. De plus, officiellement Bernard Arnault n'est pas propriétaire du bateau, car c'est une société écran, Sonata Yachting Limited, immatriculé dans un paradis fiscal à Malte, propriété du groupe LVMH, lequel groupe loue accessoirement le navire au PDG de LVMH, un certain Bernard Arnault. Et l'ISF, en fait, était plus juste que ce que Macron a prétendu. Il a rapporté près de 5 milliards 400 millions d'euros à l'État en 2017. Plus confortable pour l'État et équitable pour les citoyens que l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Ridicule création macronienne, avec pour résultat annoncé 800 millions d'euros. Soit un manque à gagner de 4 milliards 600 millions d'euros. Montant qui dépasse de 50% le budget annuel du CNRS, qui plafonne à 3 milliards 300 en 2015. D'autre part, les dons aux associations caritatives étaient déductibles de l'ISF. Cet avantage disparu, la philanthropie des grands bourgeois s'évapore. La Fondation des Petits Frères des Pauvres a enregistré au premier trimestre 2018 une chute de dons de 30%. Et c'est même 60% de chute pour les apprentis d'Auteuil. Et 40% pour la Fondation de France. Ce qu'il fallait démontrer de la priorité des plus riches, payer le moins d'impôts possible. Alors après ces deux premiers points, on attaque un troisième, et il y en a toute une série. Troisième point, la flat tax. Selon le principe de l'impôt progressif et démocratique, les contribuables les plus riches étaient taxés à un taux élevé, 45% sur la part de leurs revenus supérieure à 156 244 euros. les contribuables les plus modestes n'étaient imposés que de 14% sur la part de revenus comprise entre, grosso modo, 10 000 euros et 27 500 euros. Et bien voilà que Macron a inventé le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui établit la flat tax, c'est-à-dire un impôt à taux unique. Que vous soyez friqué ou pas, c'est pareil, vous payez le même pourcentage d'impôt sur vos avoirs, sur votre petite tirelire ou sur votre fortune honteuse. Que vous soyez Bernard Arnault ou Marcel Dugenoux, vos placements financiers sont imposés au même taux. Alors il est intéressant de voir de quel taux il s'agit. Gabriel Zucman, dans Le Monde du 25 octobre 2017, expliquait « La flat tax est une bombe à retardement pour les finances publiques. Ce PFU ou flat tax, prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital, est réputé être de 30%, ce qui représentait déjà une diminution d'un tiers par rapport à la taxation précédente à 45% d'avant Macron. Grosse perte pour l'État. Mais comme on nous a promis que cette douleur restaurera le plein emploi, alors on supporte. Mais ces 30%, c'est un mensonge, car on oublie de préciser que ces fameux 30% comprennent les prélèvements sociaux généraux auxquels sont soumis tous les citoyens, contributions additionnelles de solidarité et prélèvements de solidarité CSG, lesquels représentent à eux seuls 17,2%. Alors vous soustrayez ça des 30% annoncés et il ne reste plus que 12% 80 comme impôt sur les revenus du capital. L'impôt forfaitaire n'est plus que de 12% 80. Donc, le plus mal payé des contribuables paie davantage en impôt sur le revenu sur chaque euro de salaire perçu, c'est-à-dire il est imposé à 14%, que le plus riche des actionnaires sur ses dividendes perçus, lui qui ne sera imposé qu'à 12% 80. Vu ? Ce tour de passe-passe peut faire croire que les pauvres capitalistes sont étranglés par des prélèvements du tiers de leurs revenus, alors que les salaires des travailleurs ne seraient même pas frappés de la moitié de ce taux. L'économiste Liem Wang Nok précise que le PFU dispense les capitalistes de tout impôt sur la valeur de leur capital fixe. Oui, c'est un impôt qui ne porte que sur ce que ce capital vous rapporte, que sur les intérêts produits de manière diverse et variée. Donc, ce PFU dispense les capitalistes de tout impôt sur la valeur de leur capital fixe et de leurs avoirs financiers fixes, c'est-à-dire la quantité d'actions ou d'obligations qu'ils conservent. Ils ne paient 12% 80 que sur les dividendes ou intérêts récupérés ou les bénéfices en cas de vente. Ainsi, le patrimoine financier des plus riches pourra grossir avec le minimum d'entraves fiscales. Cette baisse forfaitaire de l'imposition du capital coûtera à l'État entre 1,3 milliard d'euros et 5 milliards, selon les estimations. Selon la Commission des finances du Sénat, 44% du bénéfice total lié à la mise en place de ce PFU serait capté par le 1% des ménages aux revenus le plus élevé. Pour les 100 premiers contribuables français, le gain moyen annuel lié à ces mesures est estimé par Bercy à 582 380 euros. Alors c'est donc la réduction d'impôts qu'ils auront réussi à se faire défalquer grâce au PFU, au PFU. Et c'est le montant de la réduction. Imaginez un peu ce que doit être la fortune de quelqu'un qui a une réduction pareille. Et pour les 1000 premiers, le gain moyen annuel grâce au PFU sera de 172 220 euros par an de réduction impôt. Et ce PFU peut coûter bien plus cher que prévu, car les dirigeants d'entreprises qui bénéficient de salaires très élevés pourraient avoir intérêt, pour payer moins d'impôts, à être payés non plus en salaire, mais en dividendes, en actions éventuellement, lequel système est beaucoup moins taxé que. Quatrième création macronienne. Quatrième cadeau. Ah, ces pauvres grands bourgeois. 1% de la population. Alors l'exit tax a été créé par Sarkozy, si je ne me trompe. C'était un dispositif de lutte contre l'évasion fiscale en 2011. Il visait à dissuader les gros actionnaires des sociétés créées en France, les dissuader de choisir l'exil fiscal afin de vendre leur capital en échappant à l'impôt sur la plus-value. L'État fixait un délai de 15 ans durant lequel, où qu'il réside, le contribuable fuyard devait, s'il vendait ses titres de propriété, ses actions, il devait s'acquitter de l'impôt dans l'Hexagone. Macron a supprimé cette taxe au nom de l'attractivité économique de la France. Eh bien, ça va coûter très cher à l'État. La perte pourrait se situer et ses milliards d'euros, selon un responsable de la direction fiscale de Bercy, Christophe Pourreau. Autre engagement du président Macron, faire progressivement baisser l'impôt sur les sociétés de 33,33% à 25% à l'horizon 2022. Cette ristourne faramineuse représenterait à terme une perte de 11 milliards d'euros pour l'État. Sixième cadeau. Avait été créé le CICE, si je ne m'abuse, par François Hollande. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ce crédit d'impôt pour les sociétés était égal à 6% de la masse salariale de l'entreprise pour tous les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Ce CICE était une mesure provisoire destinée à donner un coup de fouet, bien entendu, à l'emploi. Ce rabais de 6% de la masse salariale en crédit d'impôt représente au total un coût de près de 100 milliards d'euros pour l'État depuis 2013, soit 20 milliards d'euros par an en moyenne. L'objectif du CICE est d'augmenter les profits des sociétés pour les inciter à investir et à créer des emplois, bien entendu. Mais, il aurait peut-être fallu voir de près ce que les entreprises faisaient du cadeau. Parce que sans réel contrôle, les entreprises font ce qu'elles veulent. Par exemple, le PSA touche ainsi des dizaines de millions d'euros chaque année au titre du CICE. En 2014, il a touché 74 millions. Et ça ne l'a pas empêché d'enchaîner les plans de licenciement. Le million d'emplois que Pierre Gattaz avait promis en échange du CICE et du pacte de responsabilité se fait toujours attendre. Et on ne voit aucune trace d'amélioration du chômage depuis l'abandon de l'ISF, de l'apparition de la flat tax. En 1986, un certain Yvon Gattaz, père du Pierre actuel, et déjà alors président du CNPF, l'ancêtre du MEDEF comme chacun sait, Yvon Gattaz donc, en 1986, s'était engagé à embaucher des dizaines de milliers de chômeurs. C'était le plan ANCA, emploi nouveau à contraintes allégées. Il s'était engagé à cela contre la promesse de supprimer l'accord obligatoire de l'inspection du travail à tout licenciement économique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas gratuit, hein. Donc, énorme entaille au droit du travail. Il n'y a plus, à partir de ce moment-là, d'accord obligatoire de l'inspection du travail à tout licenciement économique, c'est-à-dire que le patronat fait ce qu'il veut. Il prend les subventions, il prend les réductions d'impôts et il continue à licencier. Ce plan ENCA et cette suppression du contrôle des licenciements par l'inspection du travail ont abouti, selon le BIT, le Bureau international du travail, à une hausse du chômage de 0,2% en un an. Septième cadeau. Alors, le CICE, à partir du 1er janvier 2019, a évolué. Il a été converti en une baisse pérenne, durable, des cotisations sociales patronales. Mais au cours de cette année de transition, l'ancien CICE va être cumulé avec son remplaçant, avec le nouveau dispositif. Résultat des courses. En 2019, les entreprises ont bénéficié deux fois du rabais. Elles ont eu le crédit d'impôt au titre de 2018 et en même temps, selon la formule consacrée, en même temps de la baisse des cotisations pour 2019. Alors Bercy a dû rembourser le crédit d'impôt de 2018 et construire un budget avec des cotisations de 2019. La facture totale de ce double chèque se monte à 40 milliards. Un montant gigantesque comparé au budget de l'enseignement et de la recherche. Moins de 28 milliards d'euros dans le budget 2019. Et Daniel Cohen, économiste, s'étonne. On aurait pu payer en 2018 le CICE de 2017 et voter une baisse des charges à effet ultérieur en 2019. Il n'y aurait eu aucune rupture pour les entreprises et on aurait économisé 20 milliards d'euros. Vous voyez ce qu'on peut faire avec 20 milliards d'euros? Ça fait une sacrée montagne de carambars, hein, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, Liem Hong Ngoc a donné des pistes de réponse. Avec 20 milliards d'euros par an, il est possible d'éradiquer la pauvreté en portant les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté, soit 1 000 euros par mois. Relever le RSA à ce niveau coûte 10 milliards. Et l'attribuer, ce RSA, à tous les ayants droit qui ne le demandent pas, parce qu'il manque d'informations ou pour d'autres raisons, donc l'attribuer à tous ceux qui y auraient droit, coûterait 5 milliards d'euros de plus. Et avec les 5 qui resteraient, on pourrait augmenter le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé. Ça ne coûterait pas plus de 5 milliards d'euros. Voilà tout ce qu'on peut faire avec 20 milliards d'euros que Macron vient de jeter par la fenêtre. Par la fenêtre, oui, mais ce sont déjà les milliardaires qui ramassent.
Lapin sauvage, lapin sauvage,
lapin lapin,
lapin lapin,
lapin sauvage,
lapin lapin,
lapin lapin,
lapin sauvage,
lapin sauvage,
lapin sauvage,
lapin sauvage,
lapin sauvage,
lapin sauvage,
lapin
sauvage. Lapin sauvage.
Lapin sauvage
fut inventé
en 1887
par un nommé
Jérémy Victor Hoptebec,
fils de son père
et de sa mère,
neveu de son oncle et de sa tante,
et petit-fils de son grand-père,
frère de sa sœur et frère de l'aide, un marchand de beurre.
La belle histoire.
Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles,
des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Hoptebec.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec. Et de Lubec jusqu'à la Mecque, il n'y avait
qu'un si chouette mec, Jérémy Victor Hoptebec.
En Dante, con moto.
Dans les champs près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent,
pince à linge,
pince à linge.
Il faut ton linge fin et trop léger, une pince pour le pincer,
pour le pincer,
pour le pincer,
le pincer.
Et dès lors, dans sa tête, l'obsession qui
le passé,
puis un jour il l'avait trouvé.
Prenez de petits morceaux de bois
que vous assemblez en croix,
avec un petit bout de fil de fer
et un ressort en train.
Vous saisissez cet instrument entre votre pouce et votre index.
Vous le serrez en appuyant
afin qu'il soit bien circonflexe.
Alors vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez.
Son chien
culottée, et l'aventurière et blanchisseuse du monde entier. Et pince à linge qui protégera la liberté, l'humanité. Pince à linge, grâce à toi maintenant. Nos chemisettes, nos chaussettes résistent au vent. Et nos caleçons dorénavant répondront présents.
Et l'ouragan peut tonner.
L'orage se déchaîner. Nous, grâce à la pince à linge, on est protégé, paré, sauvegardé. On aura toujours de quoi espérer.
Amis, chantons en cœur la louange et l'honneur de notre bienfaiteur. Gloire à Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec.
Bec, 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 bec.
Septième cadeau de Macron. Macron a également baissé la taxe sur les salaires pour les entreprises non soumises à la TVA, c'est-à-dire les banques et les organismes financiers, qui désormais ne paieront plus que 13,60% d'impôt au lieu de 20% de taxe sur les salaires des traders qui sont grassement rémunérés. Coût de la mesure, 250 millions d'euros en moins chaque année dans les caisses de l'État. Je répète, septième cadeau de Macron. À la haute bourgeoisie, il a également baissé la taxe sur les salaires pour les entreprises non soumises à la TVA, c'est-à-dire les banques et les sociétés financières, qui désormais ne paieront plus que 13,60% au lieu de 20% de taxes sur les salaires des traders grassement rémunérés. Coût de la mesure de 150 millions d'euros en moins chaque année dans les caisses de l'État. Et huitième cadeau, la suppression de la quatrième tranche de la taxe sur les hauts salaires que payaient les entreprises. Cette suppression provoque une perte de 137 millions d'euros par an pour l'État. Au total, les cadeaux aux plus riches, accordés dès l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, représentent un coût de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Un vrai pognon de dingue! Ça représente au minimum 50 milliards pointés par l'étude des sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson dans l'ouvrage paru en 2019 « Le président des ultra-riches », dont cette chronique est directement inspirée. Ce livre se lit comme un roman. Ce qu'il n'est pas, hélas.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des peines et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par de foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il n'y en a pas un sur 100 et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
En 2015, les bénéfices de 33 sociétés françaises du CAC 40 était de 55 milliards d'euros et en 2016 de 76 milliards et en 2017 de 93 milliards. Sur les 6 premiers mois de 2018, ces entreprises ont accumulé 43 milliards 500 millions d'euros de bénéfices, soit 500 millions de plus qu'à la même époque en 2017. Les sociétés du CAC 40 approchent donc les 100 milliards d'euros de profits qu'elles affichaient avant la crise financière de 2008. Les PDG du CAC 40 ont touché en moyenne en 2017 5 100 000 euros, soit 14% de plus en un an. Sans compter les régimes de retraite supplémentaires, les fameuses retraites chapeaux, sur lesquelles règne une véritable omerta. Bernard Charles, PDG de Dassault Systèmes, a été payé 15 800 000 euros selon Dassault, mais 24 600 000 euros selon les investigations de la société Prox Invest. Étude qui note que les parents des très grands groupes sont de plus en plus souvent payés en actions. En 9 ans, la part des actions dans la rémunération totale des PDG du CAC 40 est passée de 5% à 36%. Au détriment du salaire fixe qui, comme on l'a vu, est imposé plus fortement. Les dividendes, les bénéfices donc de BNP Paribas, ont augmenté de 12% en 2018 et son PDG Laurent Bonnafé a touché en 2017 un salaire total de 4 450 000 euros. Ce qui ne l'a pas empêché de fermer 200 agences en 2 ans et de supprimer 730 emplois. Malgré cette belle santé des entreprises, on peut déplorer le recul de l'investissement. 12 milliards d'euros pour les 6 premiers mois de 2018, hors secteur banque et assurance. L'investissement a reculé de 69 milliards d'euros depuis 2006, ce qui prépare mal l'avenir, comme on le comprend. Les entreprises du CAC 40 distribuent en proportion la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires. Elles sont championnes du monde, toutes catégories, devant les États-Unis et le Royaume-Uni. Analyse Manon Aubry, porte-parole de l'ONG Oxfam France. Les grands gagnants des mesures fiscales du gouvernement sont les 10% des ménages les plus riches. Ils accapareraient ainsi 46% des réductions fiscales promises aux ménages. Et c'est principalement le 1% des plus riches, c'est-à-dire seulement 280 000 ménages, qui occuperaient le haut du podium. Emmanuel Macron est donc bien, avec la sollicitude unidirectionnelle de sa politique fiscale, il est bien le président des ultra-riches. En France, en 2017, les 10% les plus aisés détiennent plus que la moitié des richesses nationales, quand les 50% les plus pauvres ne se partagent que 5% du gâteau. Or, ces inégalités ne cessent de se creuser. Au sommet de la pyramide, calcule l'ONG Oxfam, la richesse des milliardaires français a été multipliée par 3 en 10 ans. Et les 32 milliardaires français possèdent désormais autant que les 40% des plus pauvres de la population française. En même temps, en 20 ans, le nombre de personnes en situation de pauvreté a augmenté d'1 200 000 dans le pays.
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hoe, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. I hope, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
Maintenant, un petit chapitre people pour vous remonter le moral. Le couple Macron a occupé de 2014 à 2016 un magnifique appartement de 300 mètres carrés au 6e étage du paquebot de Bercy, avec des vues plongeantes sur la Seine. Parfait écrin pour réception mondaine. S'y pressaient les journalistes, les acteurs, les écrivains, les people, les chefs d'entreprise, les chanteurs, le tout Paris. Et bien au-delà, accouru le plus souvent par l'entrée discrète située quai de Bercy. Tout cela, bien entendu, aux frais de la République. En 2016, pendant les 8 premiers mois, les crédits de l'année entière ont été consommés en frais de représentation. Brigitte et Emmanuel postulaient à devenir le couple présidentiel. Le 6 janvier 2016, Emmanuel Macron, encore ministre de l'économie, est ovationné, comme on sait, par plusieurs centaines de start-uppers enthousiastes réunis au Consumer Electronics Show de Las Vegas, grand rendez-vous des nouvelles technologies. Opération montée sans appel d'offres par Muriel Pénicaud, alors directrice générale de Business France, organisme public chargé de la promotion de l'image économique de la France à l'étranger. Mais la mise en concurrence est pourtant obligatoire dans la fonction publique pour tout montant supérieur à 207 000 euros par opération. Or, la facture pour cette petite sauterie atteignait les 381 759 euros. Une enquête a été ouverte le 13 mars 2017 en pleine campagne électorale par le parquet de Paris pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme. Muriel Pénicaud est devenue ensuite tranquillement ministre du Travail. Elle a été convoquée chez le juge le 22 mai 2018, dont elle est sortie avec le statut de témoin assisté. La ministre a assuré au juge ne connaître personne de chez Havas. Mais des perquisitions policières ont révélé de nombreux échanges par mail entre Muriel Pénicaud et Stéphane Fuchs, vice-président du groupe Havas, organisateur de cette soirée de Las Vegas, sans que celui-ci ait même réclamé un simple bon de commande. J'ai un rendez-vous secret avec Fuchs, cela ne doit pas figurer à mon agenda, et cela ne doit pas se savoir. Ce mail de Muriel Pénicaud à son assistante le 4 juin 2015 a fait penser à des marchés truqués. En août 2015, Muriel Pénicaud mobilise ses relations avec le groupe Havas, dont Vincent Bolloré est le grand patron, pour placer son neveu comme assistant marketing.
Quand tout s'endormira quelque part dans les givres, que ne glisseront plus de nous que des eaux lentes, mêlant leur transparence à des bruissements d'ailes, des fouillis de reflets à des mouvements doux. Quand nous ne serons plus que quelques barques vides, sans marée, sans amarre, sans idée de retour, avec pour seule saison une éternelle enfance, et pour seule musique des rumeurs d'hirondelles. Quand le temps brûlera sur le cadran solaire ces dernières secondes, et qu'une flèche noire brisera d'un seul jet le centre de la cible, que partout régneront l'immobile et le blanc. Quand enfin le silence imposera sa neige à ses vacarmes vains, ses fracas et ses cris, que nous ne serons plus qu'une infime fréquence, s'en allant se refondre au chant universel. Alors viendra peut-être à pas de loup. Thank you.
Le groupe Havas avait déjà obtenu les faveurs de Bercy en avril 2015, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, pour l'attribution d'un marché Creative France destiné à mettre en valeur l'attractivité de la France et de sa technologie à destination de l'étranger, avec l'achat de spots publicitaires à diffuser entre le 15 juin 2015 et la fin de l'année 2017. Les deux autres sociétés concurrentes, Publicis et McCann, avaient été rapidement écartées et Havas avait remporté le marché de 13 millions d'euros. La recherche de fonds auprès de généreux donateurs particuliers s'est effectuée dès le printemps 2016 dans l'organisation de dîners et de cocktails mondains. Des poissons pilotes, lors d'une visite d'Emmanuel Macron, demandaient à des chefs d'entreprise, à des avocats ou des banquiers de participer financièrement au lancement du mouvement de celui qui était encore ministre de l'économie. Plus de 10 millions d'euros ont ainsi été collectés auprès de particuliers. Ceci selon deux modalités encadrées par la loi. 7 500 euros maximum par personne pour le parti En Marche et 4 600 euros par personne pour l'association de financement de la campagne. Ces dons font l'objet d'une réduction d'impôt de 66%. Ce dispositif d'incitation fiscale exclut de fait les 56% de foyers qui ne sont pas imposables. Évidemment. Donc, si vous êtes relativement aisé, ou du moins assujetti à l'impôt sur le revenu, l'État vous fait cadeau des deux tiers de votre don au parti politique de votre choix. Mais sinon, c'est à vous de tout payer de votre poche. En fait, les 10% les plus riches comptent pour 53% des dons et cotisations aux partis politiques. Et, sans surprise, les politiciens les plus à droite sont les plus gâtés. Les inégalités politiques renforcent ainsi les inégalités économiques et le pouvoir des grandes fortunes, de la manière la plus légitime qui soit. Les grandes rivières n'étant pas faites que de petits ruisseaux, les chèques de gros donateurs, signés entre autres à l'occasion de dîners de fundraising ciblés, représentaient à eux seuls 45% des fonds collectés par En Marche en mars 2017.
Thank you. Thank you.